Un corps, ce corps qui est le nôtre, perçu comme un centre, peut-il rester le pivot du monde si l'un de ses membres est amputé ou vécu comme tel? Des chirurgiens, des philosophes ont tenté de répondre. Que se passe-t-il quand une partie du corps entre dans une région de silence et de froid? On peut, très tôt, et en n'importe quel lieu, une sortie d'école par exemple, prendre conscience que la condition d'être incarné ne sera pas de tout repos. Notre invité ce soir est Jacques Henrich pour son livre qui vient juste de sortir, qui s'intitule « Boxe ». Et nous allons commencer en musique comme chaque soir, et ce sera Leonard Cohen.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord.
Il défend pas mal le jeune vieux Leonard Cohen. Qu'en pensez-vous, Jacques Henrich?
Cette voix, c'est formidable. Et puis, ça introduit bien un climat de gravité qui devrait être celui de ce soir, quand on va parler de boxe notamment. Même si c'est un sport brutal où on s'insulte beaucoup, mais il y a quand même quelque chose qui relève un peu de la tragédie, qui n'est pas qu'un sport.
Oui, en tout cas, vous venez de publier un livre fort réjouissant. Et pour moi qui m'intéresse pas du tout à la boxe, même si, comme tout le monde, j'ai regardé des matchs de boxe à la télévision et dès que ça commence, je ne peux pas m'arrêter parce que je veux aller jusqu'au bout. Mais il ne parle pas que de boxe. C'est aussi, je trouve, une sorte d'autobiographie à la fois intellectuelle, amoureuse, méditative, philosophique et politique. C'est tout ça à la fois, le tout dans une langue où vous rénovez complètement l'art de la littérature. Ce n'est pas très étonnant quand on sait de vous, Jacques-Henri, que cela fait plus de 35 ans, 37 ans que vous écrivez dans tous les domaines, puisque vous avez publié des romans, des récits, des essais, que vous avez longtemps travaillé dans le sillage de Tel Quel, que vous êtes très ami avec Philippe Solers, que vous avez participé à ce mouvement de la littérature qui essayait de mettre en pièces la vieille littérature, celle héritée de la Seconde Guerre mondiale, et que vous êtes un admirateur de Guy Debord. Mais là, vous avez réussi à faire quelque chose de très différent. Mais je voudrais qu'on commence par votre amour de la littérature. Vous ne venez pas d'un milieu riche. Je pense qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de bouquins au domicile familial. Vous avez fait l'école d'instituteur. Et je voulais savoir quels étaient les livres de chevet quand vous étiez petit. Enfin petit, dès l'âge de 10-12 ans, parce que vous avez été précoce sur tous les plans. Intellectuel, mais aussi sexuel. On reviendra aux histoires sexuelles.
C'était des livres de ce qu'on appelait, je crois, à l'époque, la bibliothèque verte. C'était beaucoup de...
C'était gentil, ça.
Oui. Bah, 10-12 ans, quand même, j'étais pas encore à lire Bataille, hein. Non.
Mais après, vous n'allez plus pouvoir vous en passer.
Oui, je me suis rattrapé, oui, après, assez tôt. Non, très vite, je suis passé à des choses sérieuses. Un des grands souvenirs de lecture que j'ai eu, grâce à l'existence de la collection de poche, qui a été quand même quelque chose de très important pour ma génération et pour d'autres, ça a été la Céline, le voyage au bout de la nuit. Ça a été vraiment la découverte de ce que pouvait être la littérature. Bon, et après, toutes mes références habituelles que je me tue dans mes articles à citer, Bataille, Klossowski, enfin tout ce qui touchait effectivement très très tôt à la question sexuelle, c'est vrai. Et tous mes livres sont évidemment marqués par ces lectures-là. La question était après d'être à la hauteur de ces admirations et de ces livres-là. Voilà.
En tout cas, vous êtes entré en littérature très jeune et vous avez écrit un livre sur Céline. Je vous propose que nous écoutions la voix de Louis-Ferdinand Céline qui va justement parler de littérature.
Quand je lis un livre... Je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries, tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas ? À l'émotion, ça, ils n'y vont pas du tout. Je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je trouve que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression.
Alors, on vient d'entendre la voix de Céline. Et effectivement, quand on lit votre dernier livre, Jacques-Henri, on pense au style de Céline, d'une certaine façon, dans cet art que vous avez de faire des montages très brutaux, dans cet art de l'accélération, dans cet art où vous mélangez à la fois le récit autobiographique et la méditation philosophique. Sans arrêt, c'est des coups, sans faire de mauvais jeu de mots, des coups à l'uppercut que nous recevons quand on lit boxe. Est-ce que c'est influencé par les lectures de Céline ? Et Céline avait raison, donc cette archive n'est pas datée. Nous n'avons pas pu trouver la date. On sait que seulement que c'est évidemment après la guerre. Il avait raison, on n'apprend plus rien dans les livres.
Attendez, c'est un prophète. Il n'y a pas un mot à changer à ce que dit Céline. Moi, j'adore sa voix, son débit de voix. qui est très exceptionnel, hein, à l'époque. Les voix, c'est pas du tout ça. On voit quand même un peu l'origine sociale assez modeste de Céline, hein, dans sa façon de parler. Mais ce qu'il dit sur le rôle maintenant de ce qui est les livres de sociologie qui sont considérés comme des romans, on en a des exemples encore aujourd'hui. C'est intéressant. Ils passent d'ailleurs s'ils sont sur les listes des prix littéraires comme romans, puisque tout est roman maintenant. Donc vraiment.
Là, vous voulez parler de Jablonka avec Laetitia.
Par exemple, oui. Bon, qui est peut-être un bon livre, hein, je sais pas, mais.
Très bon.
Mais c'est pas un roman.
Je trouve.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais.
Il y a plus de genre littéraire.
Il y a plus de genre littéraire. Moi, j'ai vu des recueils de poèmes ou des journaux intimes qui étaient marqués romans. Bon. Ce qui provoque d'ailleurs des confusions dont j'ai été un peu victime, je peux le dire, puisque mon livre n'est marqué ni roman, ni essai, ni autobiographie, il n'appartient à aucun genre. Le résultat, c'est que dans une rentrée dite littéraire, mon livre n'est pas apparu. Parce qu'il n'était pas dans une case. Bon, donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir chez les libraires, parce que c'est pas un livre de la rentrée. Bon,
et bah, que enfin... faites-vous de la polémique qui a sévi il y a quelques années sur la moralisation de la littérature? Y aurait-il un bon Céline et un mauvais Céline? Céline et l'antisémitisme, Céline et l'antisémitisme de cet auteur entacherait-il le génie de cet auteur?
Bon, absolument pas. Mais en plus, c'est plus compliqué. Moi, je n'ai jamais accepté cette espèce de cassure comme ça entre le romancier disons le polémiste, puisqu'on appelle ça des livres polémiques. L'antisémitisme de Céline, il est autant, on le trouve autant dans ses romans, hein, et dans ses essais, je suis désolé de le dire, mais notamment dans Bagatelle pour un massacre, il y a des pages qui sont admirables. Donc on peut pas faire ce tri-là. Bon, alors il y a un moment peut-être dans les livres antisémites là où ça a un peu dérapé, qui était d'ailleurs, quand ça dérapait, c'était assez médiocre. Hein, les certains livres, mais Bagatelle pour un massacre, il y a des pages sur la danse et la littérature française admirables. Donc moi, j'ai jamais fait cette espèce de différenciation entre les deux genres chez Céline, et de toute façon, ça n'entame en rien l'admiration que j'ai pour l'écrivain. Parce que alors, si on commence à faire de la morale, je peux vous dire que je peux faire une liste assez longue de tout ce qu'il faudrait mettre à la poubelle.
Il y a certaines révélations dans votre dernier livre, hein, justement de gens réputés comme étant des grands moralisateurs et des grands moralistes qui se sont livrés aussi à des choses pas forcément très catholiques.
Oui,
notamment
oui,
Charles Maurras, etc., et d'autres noms que vous livrez à l'intérieur de
Box. Bien sûr. Oh, Maurras, petite parenthèse, c'est assez drôle, c'est quand les Blancs ont eu des problèmes avec leur sexualité.
D'ailleurs, parlons de ce que faisait Maurras avec ses couilles.
Il y avait un gros problème. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'histoire de la boxe, au début du siècle, il y a eu la montée des Noirs, et les Blancs ont évidemment vécu ça de façon très, très, très dure. Ce qui a provoqué d'ailleurs un racisme fou. Hein. Il y a eu des matchs au cours desquels des coups de feu ont été tirés sur le boxeur noir, et quand le boxeur noir gagnait, hein, dans un des matchs importants du début du siècle, ça provoquait des pogroms, on allait dans les quartiers nègres, on brûlait, on tuait les gens. Là, c'était des effets aussi de la boxe. Alors, les Blancs avaient un petit problème avec leur sexe, semble-t-il, il y a un certain docteur Voronov qui venait de Russie et qui s'est installé à Paris, qui avait une clinique et qui a eu l'idée d'aider des gens, des hommes qui avaient des petits problèmes avec des pannes sexuelles, et il a inventé un système qui consistait, enfin une pratique qui consistait à greffer sur les testicules des hommes des testicules de singes, et après d'ailleurs aussi de boucs, des choses comme ça. Ça a eu un succès énorme, il s'est fait une fortune, et alors ce qui est très intéressant, c'est de voir les gens qui y sont passés. Et vous parliez de Maurras, je crois, le catholique, et a dû y passer deux fois, lui.
Vous dites même trois dans votre livre.
Peut-être trois, oui. Bon, et puis il y en a eu d'autres.
Ça veut dire
hein.
Que ça marchait pas la première fois, alors.
Oui, ça marchait un peu hein, quand même, semble-t-il, sinon ça n'aurait pas eu ce succès-là.
C'était jamais assez, alors.
Mais voilà, non, ça en dit long sur la sexualité, la misère sexuelle d'un certain nombre de gens qui avaient des académiciens, il y avait du beau monde. Hein. On pense même que Sandrart s'y serait passé. Ce qui me fait dire dans le livre, d'ailleurs, en disant il avait déjà perdu un bras, mais alors si en plus il perdait une couille, alors là, ça devenait très embêtant pour lui.
Et comment le jeune instituteur est-il tombé sur la naissance de Tel Quel et de ce mouvement qui a révolutionné une partie de l'idée même qu'on se faisait de la littérature?
Bah, il faut dire les choses par le Parti communiste.
Hein. 15 ans, à l'âge de 15 ans, vous êtes rentré au Parti.
Je suis rentré au Parti communiste à l'âge de 15 ans. Je lisais déjà, alors là, à l'école normale d'instituteurs, déjà, bon, mes lectures, Bataille, tout ça, c'était déjà bien engagé. Donc j'avais quand même une idée de ce que pouvait être la littérature, disons, moderne. On n'utilisait pas vraiment ce mot. Et donc, immédiatement, ça m'a dirigé vers un groupe qui était le groupe dirigé par Solaire, ce qui était le groupe Tel Quel. Mais très tôt. Hein,
À l'âge de 17-18 ans, on pouvait écrire à une revue et dire, voilà, moi je lis ce que vous faites, ça m'intéresse. Et on était immédiatement adoubé.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je collaborais à des journaux du Parti communiste, dont les Lettres françaises que dirigeait Aragon. Et j'ai tenu une chronique aussi pendant des années, dans un hebdomadaire qui s'appelait France Nouvelle, et où toutes les semaines je défendais donc une littérature, pourtant c'est un journal très stalinien, qui n'était pas du tout dans l'esprit de l'époque à l'intérieur du Parti communiste. Donc voilà, j'ai pu défendre Tel Quel très tôt, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Solaire, disons, j'ai dû le rencontrer dans 65.
On l'écoute, bah lui aussi, il a commencé à publier extrêmement jeune, et il a été reconnu par qui? Le premier d'entre eux qui a signé un article sur le premier livre de Philippe Solaire, ce n'était autre que François Mauriac. Donc les très jeunes écrivains étaient reconnus par des grandes signatures. Nous allons écouter la voix de Philippe Solaire à propos de l'importance de la poésie. C'était le 11 février 2009.
Si on ne part pas de l'intérieur, c'est-à-dire de l'écoute pour lire, eh bien évidemment on est baladé dans des images qui sont tout à fait fausses. On ouvre un livre, il faut être sensible à ce que ça suppose d'expérience concentrée intérieure. Et évidemment c'est une voix qui vous parle. S'il n'y a pas de voix, il n'y a rien.
Pas de changement de cap?
Non. Je crois que c'est le problème, c'est de rester le même lorsque tout est en mutation. Résister par tous les moyens au poids de la société qui veut vous embrigader, vous étiqueter, vous faire marcher en rang, être ensemble, que vous soyez social et que vous soyez dans le réalisme social et dans le naturalisme social, etc., etc., etc. Donc c'est un problème de curiosité. Il y a un seul moyen, en fait, et ça, Henrik l'a pointé, de résister à tout, c'est d'être absolument immergé dans la poésie.
Voilà, ça c'était Philippe Solaire dans Du jour au lendemain au micro d'Alain Weinstein en 2009. Il parle de vous et vous êtes comme des frères. Sauf que vous n'avez pas finalement pris les mêmes chemins d'écriture. Mais par contre, la voix, ce qu'il dit de la voix, s'il n'y a pas de voix, n'importe quel lecteur lâche le livre. Et vous avez pris de grands risques dans votre existence d'écrivain, c'est-à-dire que... On sent qu'à chacun des livres, et on reviendra sur des livres qui ont dû être très douloureux à écrire, des livres très personnels, on sent que il s'agit de votre existence, que vous n'écrivez pas des livres pour faire beau, pour faire lisse, pour raconter des belles histoires. Non, il y a toujours une partie de votre vie, au sens de l'intensité de la vie, qui va être mise en jeu dans l'écriture elle-même.
Oui, pour revenir à l'intervention de Solaire, on voit très bien la filiation entre Céline et Solaire.
La voix.
La voix. Et puis tout ce qu'il dit aussi sur la sur la littérature, le roman, les histoires, comme disait Céline, ça va. Dans les commissariats, il y en a suffisamment d'histoires. Vous savez, je cite souvent une phrase de Bataille qui dit « Pourquoi s'attarder à des livres auxquels l'auteur n'a pas été contraint ?» Et moi, je veux dire, c'est un critère absolu. Vous ouvrez un livre, vous dites « Tiens, celui-là, il a écrit, mais c'est pour raconter une histoire. Il faut qu'il y ait tous les ans, il faut qu'il y ait un petit... » Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui parle, qu'est-ce qu'il a à dire sur lui. Alors, ça peut prendre la voie du roman, hein, c'est pas notamment un ouvrage autobiographique, mais comme disait Céline, la peau ou les tripes même, il disait, sur la table. Voilà. Donc voilà, c'est pas un choix que j'ai fait, moi. J'ai pas une imagination pour faire des romans, si vous voulez. C'est à chaque fois à partir d'événements qui sont arrivés dans ma vie, qui peuvent être des événements agréables, je sais pas, une aventure amoureuse, ça peut être une aventure désagréable, comme pour mon dernier livre, une sale maladie qui m'arrive.
Et puis balance des blancs, c'est le titre du livre, et cette maladie qui s'appelle le cancer, vous l'appelez le crabe.
Ah oui, bah, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Voilà, oui. Donc ça, je l'ai pas choisi, ça m'est arrivé. Là, non plus, j'ai pas choisi de rencontrer un boxeur et de découvrir ce qu'est ce monde de la boxe. Bon, mais en même temps, comme vous le disiez, je parle beaucoup de moi en fait dans ce livre. Et si je n'avais fait qu'un livre pour décrire ce qu'est la boxe, ça n'aurait aucun intérêt. D'abord, j'y connais pas grand-chose. Même si depuis 2 ans, j'ai beaucoup regardé de matchs, j'ai beaucoup lu de choses là-dessus, je me suis passionné. Enfin, je ne peux pas dire que je suis un spécialiste de la boxe.
Tout à l'heure, j'ai lu un très court extrait de votre nouveau livre, Jacques-Henri, qui s'intitule « Boxe ». Voici le tout début de votre livre. Une fin d'après-midi du printemps 1950, sortie de l'école, le môme figurant sur la photo prise sur la plage de Concarneau a 1 an de plus, il n'a guère forci, peut-être grandi de quelques centimètres, et pour le poids pris quelques dizaines de grammes. Pas de photo alors pour en juger. On m'y aurait vu en culotte courte, trop large, sans doute un béret couvrant ma coupe de cheveux en brosse et des galoches aux pieds. À peu de choses près, je suis le même freluqué que l'année précédente. La bande de garnement après derniers échanges de coups de sacoche et tentatives de croche-pied s'éparpille dans les rues partant de la place de la mairie. Je m'apprête à remonter la rue de la Ferté qui longe le parc du château pour regagner la gendarmerie où je vis avec ma grand-mère maternelle. Un élève m'accompagne qui habite un peu plus loin dans la même rue. Je crois me rappeler son nom, Lavinet, le dernier de la classe. On racontera pas la suite parce que il faut lire votre livre, mais ça, à partir de cette rencontre dans cette rue de la mairie, votre sensation de l'existence va se transformer. Nous allons écouter Claude Nougaro, que vous citez dans ce livre, Boxe, Claude Nougaro qui a écrit une très belle chanson pour la boxe. Et ensuite, nous écouterons un de vos héros qui vous a permis d'écrire ce livre, il s'agit de Jean-Marc Mormec, qui est champion du monde lourd et léger, mais d'abord Nougaro.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box. Déesse de pierre, quatre boules de cuir, mes poings contre les siens, moi le jeune punch, box, box, lui le vieux Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime, mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Ô déesse de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière, box, box, box. Faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring. Son crochet, je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est deux et champion. Boxe, quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent répandant leur chapelle dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains, Kid Marin vient me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche, et j'aurai ton sourire, boxe. Comme une maison blanche,
Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points. Même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire quatre boules de cuir, quatre boules de cuir.
Trois mois intenses, trois mois enfermés dans un camp d'entraînement avec tout un staff autour de soi, avec trois sparring. Le matin, on est avec le préparateur physique, avec l'entraîneur. Et l'après-midi, le sac, la corde, travailler une stratégie. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comment on va battre cet adversaire, en fin de compte, qu'on doit rencontrer? On a une pression parce qu'on a envie de gagner. Donc on s'entraîne avec acharnement. Et quand on arrive, qu'on se rapproche du combat, aïe, c'est les dernières semaines, on commence à descendre au niveau de l'intensité de l'entraînement, mais toujours pour garder l'influx. Donc, on arrive, ça commence, c'est la conférence de presse, c'est le moment qu'on va voir cet adversaire qu'on a travaillé pendant des mois. On le voit, la pression monte, on se dit, il est bien là, ça y est, le combat va se faire, ça c'est sûr. On est là, on se regarde, et ensuite, il reste encore une semaine, on retourne à l'entraînement, toujours pour maintenir la condition, pour garder l'influx. Et quand on arrive, le jour de la pesée, la veille du combat, là, ça veut dire qu'on va se voir torse nu. On est dans un pré-combat. Là, les yeux pétillants, on a envie. On a envie d'en découdre, mais il est encore trop tôt. C'est juste, on est la veille du combat. Donc on regarde, on essaye de voir si les abdos sont bien saillants, si les muscles sont bien saillants, s'il a bien travaillé. On s'imagine plein de choses pour dire qu'en fin de compte, il est défaillant, il n'est pas bien, il ne m'a pas regardé dans les yeux, il a peut-être peur. J'ai pris l'ascendant sur lui, ou il a pris sur moi. Quand le lendemain arrive, le lendemain, on est pressé. Alors on dort pas. Pour certains, en tout cas, moi je dormais pas. Donc on arrive 2 heures, 3 heures avant dans ces vestiaires. On est encore enfermé. On devient comme un lion en cage. La porte est fermée. On est avec un staff. On a un arbitre qui arrive, qui contrôle pour voir les gants, si on est prêt. On s'habille. Et là, on commence au fur et à mesure à rentrer dans un échauffement. On frappe dans le sac. On frappe sur les pas hauts. L'entraîneur nous échauffe. On est là, on est chaud. Et on commence à dire, ça y est, 1000 peignoirs, c'est prêt. Alors si vous mettez la capuche, vous mettez cette capuche justement pour en plein compte, être encore dans une sorte d'obscurité. Et ensuite, on ouvre cette porte. Ça y est, le lion va se libérer. Et vous passez, la foule, voyez les gens qui sont là, les flashs, les caméras. Tous ces gens que vous essayez de faire abstraction parce que vous voulez pas les voir, mais en même temps vous êtes obligé de les voir parce que il y en a qui vous touchent, qui vous appellent et vous essayez de vous concentrer. Quand vous montez sur ce ring parce que cet adversaire vous attend, vous avez une telle pression en fin de compte. Vous êtes comme une cocotte minute, vous avez envie d'exploser. Mais en fin de compte, il faut encore attendre parce que c'est pas le moment. Et quand on arrive sur le ring, vous êtes déjà en sueur et lui aussi, vous le regardez encore. Et là, le visage a changé. Il se rend compte qu'en fin de compte, vous êtes déterminé, vous êtes prêt. La libération arrive quand ce gong sonne. Ce gong vous dit, allez-y, livrez-vous maintenant. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait, c'est le moment. Donc ce combat, vous savez, il peut s'arrêter en quelques secondes, comme il peut durer 12 rounds. C'est ça la pression.
Vous écoutez France Inter, de la boxe il est question, grâce à Jacques-Henri qui vient de publier son merveilleux livre qui s'intitule « Boxe ». Et Jean-Marc Mormec qui a accepté pour l'heure bleue de parler de ce que ça voulait dire une mise en condition avant le match, pendant le match, après le match. Et ce Jean-Marc Mormec qui est champion du monde de boxe, il a accepté comme une sorte de guide de vous entraîner dans ce monde qui est à la fois un monde d'enfer et de ténèbres et un monde de jouissance et de jubilation entremêlés. Jacques-Henri.
C'est formidable le petit interview qui a été fait de Mormec, là. Le débit de sa voix et ce qu'il dit, je veux dire, il a tout dit, là, presque, hein, sur ce qu'est le match. Il aurait pu ajouter aussi qu'il m'a raconté souvent qu'il avait aussi un rituel avant d'entrer dans le...
Ils sont très croyants, hein, les boxeurs. Ils font des signes de croix, comme les toreros. D'ailleurs, vous faites souvent la comparaison entre la corrida et la boxe.
Ce qui est le cas de Jean-Marc. Hein, avant de rentrer sur le ring, il fait une prière. Bon. Et puis, il y a aussi la peur. Hein, c'est le grand Cus D'Amato qui préparait les boxeurs et notamment Mike Tyson qui disait mais les boxeurs il faut que vous ayez peur attention vous n'êtes pas des héros et alors en effet Jean-Marc le dit quelquefois avant d'entrer il a peur mais une fois qu'il est monté sur le ring c'est fini quoi mais enfin là il dit les choses vraiment formidables.
Mais avant que le match commence, et bien avant la veille du match, il se passe un étrange ballet assez mécanique et très angoissant que vous décrivez admirablement, Jacques Henrich. C'est celui du poids. Et je reviens aux quelques phrases sur le corps que j'ai citées en début d'émission. C'est dans le premier tiers de votre livre. Qu'est-ce qu'un corps de boxeur? Parce qu'il ne doit pas dépasser au gramme près une certaine catégorie.
Ah oui, oui, mais c'est souvent un drame. Hein. Ça les oblige à faire des choses incroyables. C'est-à-dire être obligé de maigrir en 2 ou 3 jours de 10 kilos, avec des méthodes évidemment qui sont quand même un peu dangereuses quelquefois. Hein. Ou alors de grossir. Et quand ils arrivent sur la balance, alors là, c'est le jugement quelques grammes près, ça peut être une catastrophe pour passer du poids lourd à poids demi-lourd, etc. Bon. Et ça, évidemment, entraîne aussi beaucoup le monde de la boxe aussi, c'est pas un monde d'une grande pureté, hein. Ça entraîne beaucoup de par exemple, de balance contre truc, et là, le corps, c'est là où on voit l'importance du corps. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu Jean-Marc, puisque en fait mon livre, le point de départ, c'est la rencontre avec Jean-Marc Pormec. Il y avait un projet que je l'accompagne à Kinshasa parce qu'il voulait remettre ses titres de boxeur, de champion du monde en jeu, dans ce lieu mythique où il y avait eu le grand match du siècle, Ali Foreman. Et puis donc je vais l'accompagner pour faire un texte. Bon, je me prenais pas pour Norman Mailer, mais enfin voilà, j'aurais fait un texte. Les éditions du Seuil m'avaient, Bernard Comment m'a poussé en disant mais oui, vas-y. Puis en fait, le match s'est pas fait à cause de, je sais pas, ça coûtait très cher. Il y avait des mafias locales là-bas à Kinshasa. Mais depuis, j'ai gardé des contacts avec Jean-Marc. Et la première chose qui m'a frappé chez lui, c'est son corps. Un corps, c'est une masse de muscles incroyable. Et puis la chose alors très étonnante qui m'a frappé tout de suite chez lui, c'est d'abord qu'il avait un visage, qu'il est très beau, hein, un visage qui n'était absolument pas marqué. Mais pas une trace. Bon. Et puis la finesse de ses mains. Il avait des mains de pianiste. Et je me suis dit, moi, je voyais les boxeurs avec des grosses poignes, ouais. Et en fait, non. Et d'ailleurs, c'est aussi, c'est un gros problème pour les boxeurs, c'est leurs mains. Les os se cassent. Cerdan souvent dans ses matchs, on se dit, mais pourquoi, tiens, il bosse plus, et il gagnait. Et voilà. Simplement, il avait des mains cassées. Et Jean-Marc, ça lui est arrivé assez souvent, et il a perdu des matchs à cause de ça.
Donc, pourquoi le match de boxe? Vous vous posez la question à plusieurs reprises dans votre livre, Jacques Henrich. Pourquoi réitère-t-on cette espèce de sacrifice qui peut être très douloureux, qui peut être même sanglant, qui peut amener un des adversaires à ne plus avoir de visage, à ne plus avoir de corps non plus, à ne plus avoir de vie. À un moment, vous faites le parallèle avec les sacrifices dans l'Antiquité et avec les gladiateurs dans la Rome antique.
Ben oui, on pourrait dire aussi, on comparait ça à des duels. C'est en ça que je considère que la boxe n'est pas vraiment un sport.
Mais
c'est
un art.
C'est pas un jeu. C'est un art et c'est aussi une tragédie. Je pense que le ring, c'est un espace de quelques mètres carrés où se joue à chaque fois une tragédie, c'est-à-dire où il y a la présence de la mort. C'est pour ça que je fais une comparaison aussi avec la tauromachie. Ça n'existe pas dans les autres sports.
On ne cherche pas pour autant la mort de l'adversaire, même si on la recherche psychiquement. Ça, vous l'expliquez historiquement, parce que vous avez fait un considérable travail sur l'histoire même de la boxe, notamment au XXe siècle, et vous expliquez que pour être en condition de se battre, et pour pouvoir mettre KO, eh bien, par définition, il faut pouvoir insulter intérieurement son adversaire et faire en sorte que la haine monte pour pouvoir cogner, tout simplement.
Vous dites intérieur, pas seulement. Hein. Avant les matchs, c'est incroyable ce que ces gens peuvent s'insulter. Bon, quand on voit les matchs de Mohamed Ali, il faut voir ce qu'il faisait passer aux boxeurs en face. C'est des injures, souvent des injures sexuelles. Hein, là aussi, ça en dit long aussi sur la question sexuelle dans la boxe. Bon, c'est vraiment... il y a une mise en condition avec des mots d'abord. Et ensuite, on passe au point. Mais je crois que c'est très important, ça, la préparation comme ça, avec une pression psychologique sur les boxeurs. Maintenant, bien sûr qu'ils veulent pas tuer, mais quand même, il y a un moment où, d'ailleurs, ils le disent hein, souvent, je vais te tuer, je vais te démolir, je vais te tuer. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est de l'ordre un peu de la tragédie. Hein.
Alors, vous venez de citer Mohamed Ali, nous allons l'écouter. C'est une archive du 5 mars 1976 de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot.
Aucun boxeur n'a la gloire que j'ai actuellement. Aucun boxeur ne gagne autant d'argent que moi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même imagination, ils n'ont pas autant d'imagination. Non, j'étais en train de bourrer le crâne des gens lorsque j'essayais de leur faire croire aux gens que j'étais un salaud. Vous avez peut-être vu la lutte américaine, les catcheurs, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils vont s'entretuer. Bon, voilà l'espèce de mimique à laquelle ils se livrent. Mais celui qui fait cela, eh bien, je sais pas comment on interprète, demande le narrateur, ce genre de bruit. L'interprète ne sait pas très bien non plus, mais voilà. Vous voyez l'image de ce que le photographe voit, et c'est ça le photographe, c'est ça le promoteur qui a une immense, qui a une grande bouche, parce que le promoteur, lui, a 100 000 places qu'il doit remplir.
Lors d'un de ses derniers combats, Mohamed Ali se laisse massacrer par son ami Larry Holmes. « Plus je le touchais, plus il m'insultait », dira Holmes. « Et pourtant, j'ai essayé de faire mon boulot le plus humainement possible. » Un journaliste, parlant d'Ali, écrira « C'était comme si un imposteur avait pris possession de son corps et de son visage. Il n'avait plus rien, rien de rien. C'était affreux, on aurait dit un toutou. » Voici ce que vous écrivez, Jacques Henrique, dans votre livre « Boxe » à propos de la fin de Mohamed Ali. Comment expliquer que des gens aussi célèbres que Mohamed Ali, qui ont été des champions du monde et des icônes internationales, deviennent des sacrifiés consentants?
Ah oui, là c'est vraiment de l'ordre du sacrifice. Hein.
Du suicide presque en public?
Oui, mais il faut dire qu'il était malade hein, déjà. C'est-à-dire qu'il
mais il n'était pas obligé d'aller sur un ring.
Vous savez, vous voyez les chanteurs qui a 80 ans, 90 ans, qui n'ont plus de voix et qui continuent à monter sur une scène. Hein. C'est leur vie, ça. C'est leur vie. Et le passage que vous lisez, là, cet événement-là, c'était terrible parce que cet ami qui le boxait avait été son entraîneur au moment du match contre Foreman. C'était un ami très cher. Et il le priait, arrête, tombe. En pleurs, il était. C'est tout à fait bouleversant cette scène. Et l'autre se laissait massacrer. Voilà. Et quand je parle de tragédie, vous voyez, ça peut aller jusque là.
Hein. Vous écoutez L'Heure Bleue, vous allez peut-être pleurer en écoutant un chanteur boxeur. Vous vous souvenez de Cassius Clay? Qui chantait « Stand by me ».
Ah non, oui, mais je crois que je ne l'ai pas entendu, ça.
Eh bien voilà, on vous l'offre.
Merci.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. You stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Vous écoutez L'Heure Bleue, France Inter, Cassius Clay qui chante Stand By Me. Vous ne connaissiez pas cet extrait manifestement, Jacques Auric. Et ben on est drôlement content de vous étonner.
Merci.
Il n'a pas tout à fait la voix de Leonard Cohen, mais c'est quand même mignon.
Il aurait pu faire une belle carrière hein, de chanteur. C'est formidable cette voix. Vraiment, je suis un peu bluffé là. Vraiment.
Alors je voudrais qu'on parle d'un aspect tragique. Depuis le début de cette émission, vous parlez de la tragédie que constitue l'essence même de cet art et de ce sport qu'est la boxe. C'est une leçon historique que vous nous restituez, Jacques Henrich, à travers ce livre, puisque vous nous parlez de ce qui s'est passé dans les camps de concentration avec des boxeurs, à la fois pour des boxeurs juifs et à la fois pour des boxeurs gitans.
C'est... Oui, quand je parle de tragédie, là, on est vraiment encore, encore plus profond dans cette, dans ce qui a pu se passer dans l'histoire. Ces boxeurs, notamment un qui s'appelait Young Perez, et l'autre qui était un Tzigane Sinti allemand, ont d'abord été interdits au moment de Vichy, alors pour le français, interdit de boxer. Ensuite, je vais pas raconter toute l'histoire, mais comme tous ces boxeurs qui étaient très riches, ils avaient toujours des femmes, des stars, ou des, là, c'était un mannequin. Bon. Et on pense que cette femme, quand il a été interdit de boxer, donc il gagnait plus d'argent, a eu une aventure avec un officier nazi et que c'est probablement elle qui l'a dénoncé, il se cachait comme juif. Donc il a été envoyé en camp de concentration. Et avant de subir le pire, il a subi aussi une humiliation incroyable. On l'obligeait sur un ring, devant des officiers SS rigolards et quelques détenus, quelques concentrationnaires qu'on avait mis là pour faire un peu de public. On le faisait se massacrer par une grosse brute aryenne, alors qu'il était déjà dans un état physique, vous imaginez, dans un camp de concentration, qui était des camps, en fait, d'extermination. Et c'était une véritable boucherie. La même chose pour le jeune gitan, qui était admiré, qui était très beau, c'était un très très bel homme, admiré par toutes les femmes allemandes, et même d'ailleurs, curieusement, au moment du nazisme, il n'y avait pas encore, se manifestait pas contre lui encore une forme de racisme ou de bon. Et lui aussi, il avait gagné un match contre un Allemand. À ce moment-là, on a déclaré que c'était lui qui avait perdu, et il a été arrêté, et il a fini aussi dans les mêmes conditions que Young Perez, comme ça, en boxant, se faisant massacrer par un boucher allemand, et ensuite, la mort, quoi. Young Perez, c'était une balle dans la tête, je crois, et puis il y a eu d'autres boxeurs qui ont fini dans des chambres à gaz, hein. Voilà.
L'histoire de la boxe, c'est aussi l'expression même du racisme, puisque vous nous restituez là aussi ce qui se passait au début du XXe siècle à Paris. À cette époque-là, les matchs de boxe se déroulaient souvent au Cirque de Paris, devant déjà beaucoup, beaucoup de spectateurs. Et là aussi, eh bien, les matchs étaient truqués parce qu'il y avait un noir contre un blanc, et même si le noir gagnait, on s'arrangeait pour que ça soit le blanc qui puisse mettre KO le noir en violant les règles les plus élémentaires de la boxe.
Il faut dire que aussi au début du siècle passé, les boxeurs aux États-Unis notamment, les boxeurs français refusaient de boxer avec les boxeurs noirs. Ils refusaient. Donc ils étaient obligés de venir en France ou en Angleterre pour pouvoir boxer contre des blancs. Bon, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs des réactions racistes également en France, hein, bien entendu. Mais il y a un exemple, c'est le grand boxeur Carpentier, Georges Carpentier, boxeur français, devait se battre contre un boxeur d'origine sénégalaise, qui était assez un très bon boxeur, et le match devait être truqué, car on truque les matchs, c'est-à-dire qu'à un moment Carpentier devait se coucher au quatrième round, je crois, parce que c'était filmé, donc c'était très précis, hein, au quatrième round Carpentier devait se coucher, ou plutôt non, c'est le contraire, je me trompe, c'est le Sénégalais qui devait se coucher. Bon. Et alors le français, évidemment, était vainqueur. Seulement, il y a un moment, il y a Carpentier qui a mis un mauvais coup sur le visage du Sénégalais. L'autre s'est mis en colère et puis du coup, il n'a pas respecté la loi, ce qui était prévu, et il l'a mis KO. Bon, mais quand ça s'est su, c'est pas Carpentier qui a été inquiété, c'est ce pauvre Sénégalais à qui on a retiré tous les titres qu'il avait gagnés, qui ne pouvait plus boxer. Voilà, un cas de racisme terrible.
Alors nous allons écouter un extrait d'un film qui a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si vous l'avez aimé. Moi, comme une midinette, j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai vu, même si les plus récentes déclarations de ce cinéaste, qui est aussi un très grand acteur, m'ont pour le moins plus que stupéfait et étonné. On va écouter un extrait de A Million Dollar Baby de Clint Eastwood.
You're telling me this is your fighter?
Yeah, this is my fighter.
Then you got 10 seconds.
I keep holding my left elbow, then I throw a punch and it keeps dropping.
Yeah, well, let it drop.
That'd be a lot easier.
She thinks she knows you, that's all. Every time you drop it, she comes right over the top. So you just wait for her, see? That's all she's thinking about. And when she cocks that big right hand, you hear me?
I hear you, boss.
And when she does, you step to the side and come over with this big goodnight hook. You got one?
Got it right here.
Okay, great.
Alors, c'est avec la merveilleuse Hilary Swank. Il n'y a pas de femme boxeuse dans votre livre, Jacques-Henrique ?
Eh oui, je sais, on m'a déjà fait la
remarque.
Peut-être
un prochain, alors. Pourtant, vous êtes féministe, vous. Oui, et oui, vous l'avez montré dans vos livres précédents.
Oui, mais alors peut-être, je me suis dit, j'ai peut-être une réaction. D'abord, je connaissais mal, je n'avais pas vu de match de femmes. Et puis, c'est peut-être mon côté un peu macho qui m'a fait dire ou penser que des femmes comme ça qui se faisaient du mal, qui s'abîmaient, etc. Voilà, ça pouvait un peu pas forcément beaucoup m'intéresser. Je pensais plutôt, quand je pense aux femmes, à un corps érotique qu'à un corps guerrier. Bon, peut-être c'est la raison, mais c'est pas vraiment la raison principale. Je vois quand même qu'aux Jeux Olympiques...
Excusez-moi, Jacques-Henrique, oui. Parce que vous parlez des femmes dans ce livre, vous parlez d'une première expérience sexuelle qui fut pour vous d'ailleurs une initiation quand vous étiez, vous avez l'air étonné, mais c'est vrai, dans votre école d'instituteur et que une prof est tombée amoureuse du petit Jacques-Henrique et que vous alliez la retrouver la nuit. Et ben, vos copains, qu'est-ce qu'ils vous faisaient le lendemain matin? Ils vous boxaient pas un peu pour se venger tellement ils étaient jaloux de vous?
Non, figurez-vous, c'est pas les copains. Au contraire, ils étaient très contents. Non, c'était les profs qui me boxaient. Parce qu'ils avaient envie, évidemment, comme elle était très jolie, cette femme, beaucoup plus âgée que moi, ils avaient envie, évidemment, d'avoir une aventure avec elle. Pas de chance, elle a pris un jeune garçon, élève et tout, ce qui d'ailleurs était assez dangereux à l'époque, pour elle et pour moi d'ailleurs.
Mais vous avez pris des coups.
Ah mais des coups, oui, mais des coups psychologiques. Non, j'ai manqué de prendre des coups avec un des profs qui était prof de gym et qui m'a torturé et qui me menaçait à chaque fois. Je comprenais pas pourquoi au début d'ailleurs de me boxer. En effet. Alors évidemment, le monde masculin quand même tout de suite je l'ai jugé avec cette aventure là.
Alors, on parlait de Céline en tout début d'émission pour caractériser le style de ce livre, mais je voudrais qu'on parle aussi de Fitzgerald, parce que moi, j'ai pas arrêté de penser à Fitzgerald, parce que les carrières de ces boxeurs, c'est vraiment, ça peut être au sommet de la pyramide sociale, comme ça peut être vraiment le ruisseau, et ça peut se passer en 2-3 jours. Et après, c'est difficile à récupérer quand on se retrouve au ruisseau pour réexister. Mais au tout début de cette émission, j'ai lu un court extrait du petit garçon Jacques-Henrique qui sort de la rue de la mairie, qui sort de l'école et qui va retrouver sa grand-mère chez qui il vit. Et là, il va se passer un drame dans sa vie. Que va-t-il se passer avec cette horrible, cette ordure de Lavinay, qui pourtant est un débile et qu'on appelle Ducon dans sa classe? Que va-t-il se passer?
Ducon la molle.
La molle de quoi?
Alors justement, la molle, parce que ce Ducon-là, qui était un grand couillon, mauvais élève, le cancre absolu, mais il avait une chose que nous, les petits mômes, on n'avait pas. Il était pas plus âgé, mais plus grand que nous. C'est qu'il avait un sexe, un gros sexe qui nous épatait, parce que c'est par sa grosseur, mais qui était très mou. Donc on l'avait appelé, comme il était con, Ducon, et comme il l'avait molle, on l'a appelé Ducon la molle. Bon, mais oui, mais j'ai une histoire avec lui banale, mais à partir de quoi peut-être une partie de ma vie a été bouleversée.
Eh bien, écoutez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, si vous voulez en savoir plus, il faudra aller dans une librairie, parce que Jacques-Henrique, manifestement, veut maintenir le suspense, et il a raison.